Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, l'Odyssée géographique. Si vous aimez l'aventure, les voyages, la découverte de nouvelles cultures, ou que vous êtes tout simplement curieux, vous avez frappé à la bonne porte. La géographie, voilà bien une discipline qui véhicule de nombreux clichés. Ah oui, vous faites des études de géographie ? Vous devez connaître sur le bout des doigts les préfectures et les sous-préfectures des départements français. Non mais oh, les études de géographie, c'est pas le concours des PTT. Les moins de 20 ans demanderont à leurs aînés la signification de cet acronyme. Géographe ? Oh, ce doit être un sacré atout pour jouer au trial poursuite. Vous êtes certainement incollable sur la superficie de la Moldavie, la capitale du Botswana, ou encore la hauteur de l'Himalaya. Vous, les géographes, votre seule fonction, c'est de colorier des cartes sans déborder du cadre. Ma foi, si tel était le cas, cela signifierait que nous serions des précurseurs dans le domaine du développement personnel, vu l'engouement actuel que connaissent les mandalas, ces carnets de coloriage destinés aux personnes stressées. Ce doit être top de partir en voyage avec des géographes, car ce sont des experts en lecture de cartes routières. Là aussi, je vous arrête, cette affirmation me paraît bien surfaite. D'ailleurs, je rassure tout de suite les fabricants de GPS, ce n'est pas demain la veille que les géographes remplaceront la technologie de navigation par satellite. En revanche, si vous avez un géographe à bord, il sera certainement en mesure de vous parler de la physionomie des paysages que vous rencontrez, de vous expliquer ce qu'est un brouillard d'inversion thermique, ou de vous dévoiler les mille et un secrets d'un Talweg. Au fil des chroniques, je vous ferai découvrir la richesse de cette discipline dont les possibilités d'investigation sont nombreuses et bien souvent pluridisciplinaires. Nous parcourrons le monde au gré des soubresauts de l'actualité internationale et nous aborderons différents sujets dont voici un bref aperçu. La piraterie au XXIe siècle, le sommet de Singapour et la querelle des gros boutons, l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, une révolution en trompe-l'œil, les relations entre la France et le Rwanda, ou encore le poids géopolitique des GAFA. Une fois par trimestre, je vous amènerai à la découverte d'un pays ou d'une région peu ou mal connue. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que notre première destination sera l'Ouzbékistan et la route de la soie. De temps en temps, je vous inviterai à des flâneries urbaines dans des villes que j'ai eu l'occasion de visiter. Londres, Venise, Hong Kong, New York, Édimbourg, ou que je connais par le biais d'œuvres culturelles. San Francisco, au travers de l'œuvre d'Armistead Maupin et de la course-poursuite en voiture de Steve McQueen dans Bullitt. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Pour cette première chronique, je souhaiterais revenir sur un événement survenu cet été, le décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Âgé de 80 ans, ce diplomate de carrière originaire du Ghana a incarné l'image de l'institution onusienne entre 1997 et 2006. Après avoir effectué des études d'économie et de relations internationales, il entre à l'Organisation mondiale de la santé avant de gravir un à un les échelons de l'administration onusienne jusqu'à en devenir son secrétaire général. Quelle image a laissé Kofi Annan ? Connu pour sa retenue, son sang-froid et son légendaire sens de la négociation, cet homme aux manières polissées et à l'éternel bouc blanc a été la figure de proue médiatique de l'ONU pendant ses deux mandats. En 2001, il a d'ailleurs reçu conjointement le prix Nobel de la paix avec l'institution qu'il dirigeait. Des trois derniers secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan fut sans aucun doute le plus connu du grand public. Son successeur, Ban Ki-moon, s'est montré beaucoup plus discret à la tête de l'ONU. Quant au secrétaire général actuel, Antonio Guterres, je serais bien en peine de vous parler de lui. Sa transparence et son silence assourdissant face aux multiples conflits qui émaillent le monde contemporain posent de nombreuses questions sur son rôle ainsi que sur celui de l'institution qu'il représente. Kofi Annan fut un chantre du multilatéralisme. Tout au long de ses deux mandats, il a lutté contre les velléités d'unilatéralisme de pays comme les États-Unis, qui ont menacé à plusieurs reprises de suspendre leur soutien financier à l'ONU. Nul doute que la percée isolationniste actuelle en Europe et aux États-Unis devait être une source de désolation pour lui. Quels étaient les combats de Kofi Annan ? Paix, développement durable, défense des droits humains, lutte contre la pauvreté, lutte contre les violences faites aux femmes et lutte pour une meilleure reconnaissance de la place des femmes au sein de la société. Il appelait d'ailleurs de ses voeux la nomination d'une femme à la tête de l'ONU. Le bilan de Kofi Annan est-il irréprochable ? Comme tout un chacun, Kofi Annan avait une part d'ombre et traînait derrière lui des échecs. De son propre aveu, le moment le plus sombre de sa carrière reste l'invasion de l'Irak en 2003. Décidé unilatéralement par l'administration Bush, secondé par son fidèle allié britannique, les motifs de déclenchement de cette offensive militaire restent pour le moins douteux. Officiellement, il s'agissait de renverser Saddam Hussein et de rétablir la démocratie. Officieusement, il s'agissait de mettre la main sur le pétrole irakien. Kofi Annan s'était ému du fait que cette opération n'ait pas obtenu le feu vert du Conseil de sécurité, illustrant ainsi l'impuissance de l'institution onusienne dans l'administration des affaires du monde. En cela, il partageait la ligne de conduite de Jacques Chirac, qui avait fait le choix de s'opposer fermement à cette guerre. Les deux hommes partageaient d'ailleurs de nombreuses affinités intellectuelles. À la tête du département des opérations de maintien de la paix, il a connu deux échecs tragiques. Le génocide rwandais et la guerre de Bosnie, plus particulièrement le massacre de Srebrenica, où plusieurs milliers de musulmans ont été assassinés par les forces serbes entre le 11 et le 16 juillet 1995. La ville de Srebrenica avait été déclarée zone de sécurité par l'ONU. Plusieurs centaines de casques bleus, des casques bleus néerlandais, avaient été déployés à proximité. Ces mêmes casques bleus, à qui l'on a reproché par la suite de ne pas être intervenus auprès des populations qui recherchaient leur protection. Quelques années plus tard, l'État néerlandais a été reconnu comme partiellement coupable de la mort de 350 Bosniaques. Kofi Annan a également été mis en cause dans une affaire de corruption concernant le programme Pétrole contre nourriture. L'ONU a mis en place ce programme de sanctions à l'encontre de l'Irak suite à l'invasion du Koweït en 1990. Ces sanctions provoquent une pénurie de nourriture et de médicaments qui entraîne une crise humanitaire. Afin de lutter contre cette crise, le programme Pétrole contre nourriture est mis en place. Il permet à l'Irak de continuer à vendre du pétrole brut et lui impose d'utiliser les revenus de ses exportations pour acheter de la nourriture et des médicaments. Le fils de Kofi Annan, Kojo, a également été soupçonné pour ses liens avec une société suisse qui a décroché d'importants contrats dans le cadre de ce programme. Par la suite, Kofi Annan a été blanchi par une commission d'enquête qui a eu le mérite de mettre en lumière la gestion erratique de ce programme. Quelle vie après l'ONU ? Son départ de l'ONU ne l'avait pas éloigné des affaires internationales, bien au contraire. Il avait créé une fondation portant son nom en faveur de la paix et du développement durable. En 2012, Kofi Annan avait été mandaté par l'ONU et la Ligue arabe pour une mission de médiation en Syrie. Mission qu'il abandonnera au bout de 5 mois, fustigeant le jeu des puissances internationales qu'il accuse de manquer de bonne volonté dans la recherche d'un processus de paix. En 2017, il avait pris la tête d'une commission d'enquête sur les Rohingyas qui, persécutés en Birmanie, n'ont d'autre choix que de fuir vers le Bangladesh. Le 18 août 2018, s'en est allé un diplomate chevronné, doublé d'un homme d'une grande élégance. Pour cet humaniste, l'individualisme forcené représenterait l'un des obstacles au développement d'un monde plus solidaire et mieux équilibré. À l'heure où Donald Trump sépare sans ménagement des enfants de leur maman, veut construire un mur avec son voisin le Mexique, et où les fake news peuvent faire et défaire une élection, il est bon de se souvenir des propos du défunt secrétaire général de l'ONU lors du sommet de Davos en janvier 1999, où il appelait les leaders économiques du monde à œuvrer pour donner un visage plus humain au capitalisme. L'économie mondiale sera fragile et vulnérable à la réaction de tous les ismes de notre temps. Le protectionnisme, le populisme, le nationalisme, le chauvinisme ethnique, le fanatisme et le terrorisme. Ainsi s'achève la première chronique de l'Odyssée géographique. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.